Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'une femme qui n'a pas peur de structurer, révolutionner un secteur qui est parfois malmené. On y va pour les détails.
Média, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Nawal Houthi, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui, Lala Nawal. Comment ça va?
Ça va, alhamdoulilah, très bien.
Alors, Nawal Houthi, vous êtes une femme de communication et d'influence. Et pour être une femme de communication et d'influence, il faut aussi être à l'aise, être en confiance, et avoir confiance en soi, être à l'aise avec qui on est. Est-ce que vous l'avez toujours été? Est-ce que vous avez toujours été une femme ou une personne, une jeune fille, une enfant qui a confiance en elle?
La confiance, elle s'est construite. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, bien sûr, au fur et à mesure qu'on avance dans l'âge, on prend conscience par l'expérience, par le vécu, etc. Et bien sûr qu'au début, quand on démarre dans la vie, que ce soit dans la vie de jeune fille ou dans la vie professionnelle ou étudiantine, on a des peurs, mais qu'on arrive à apprivoiser. Donc, au fur et à mesure que j'ai avancé aussi bien dans l'âge que dans ma profession et dans ma carrière, effectivement, alhamdoulilah, aujourd'hui, je me sens sereine. Mais on a toujours quelque chose au fond de nous qui nous fait poser des questions, mais on arrive à y répondre. On connaît comment y faire, les clés, comment y arriver. Et moi, j'ai toujours dit, même quand j'ai démarré dans ma carrière dans le journalisme, j'ai toujours dit, et ça faisait rire, j'ai dit, je suis timide, mais je me soigne.
Et c'est ça.
Surtout dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être à l'aise, il ne faut pas montrer de l'hésitation, il faut montrer la confiance en soi. Quand on est face à une personnalité, qu'on pose des questions, ou quand on est en conférence, ou quand on donne soi-même des conférences. Donc j'ai eu énormément de mal au début à prendre la parole. Je bafouillais un petit peu, j'étais toute rouge. Mais c'est incroyable comment on évolue. Ce qui est normal, c'est qu'on apprend l'expérience, on bâtit, on commence à avoir une réputation, une image. Donc tout ça, ça joue.
Exact.
Ça joue et ça donne de plus en plus de sérénité et on revient à la confiance, de confiance en soi.
C'est ça. Est-ce qu'il y a des moments où il n'y a pas eu finalement ce petit flash où vous vous êtes dit, mais finalement j'aurais mieux fait d'être médecin. Je n'aurais pas pris la parole autant. Parce que vous étiez partie pour ça en fait.
Pas vraiment médecin, mais derrière les microscopes. Dans un laboratoire.
Dans un laboratoire, plutôt scientifique.
Voilà, parce qu'à la base je suis docteur en biologie cellulaire, donc... Effectivement, j'ai travaillé en laboratoire, je me suis même approfondie dans tout ce qui était recherche en biologie moléculaire, etc. Mais on va dire que la carrière que j'ai aujourd'hui et le domaine dans lequel j'évolue aujourd'hui, c'est une passion. C'est une passion qui a été exacerbée quand j'ai touché au journalisme, quand j'ai goûté aux médias, à l'information. C'était peut-être une passion enfouie qui a émergé. Et puis voilà, aujourd'hui, je suis très, très contente du parcours que j'ai réalisé, que je continue d'ailleurs, qui n'est pas fini. Et la biologie, c'est mes études, c'est une façon de réfléchir, c'est de raisonner, c'est une expérience... C'est un bagage que j'ai aussi.
Est-ce que ça permet de garder les pieds sur terre? Je m'explique.
Ah oui,
Je m'explique, parce que le monde de la communication, le monde des médias, et en plus de ça, vous organisez un sommet avec les influenceuses, donc c'est les stress, les paillettes, c'est presque pas réel en fait, il y a un côté, voilà, stress et paillettes. Et ces compétences, ces connaissances, cette formation en biologie moléculaire, ça c'est vraiment la recherche du détail, la recherche de la confirmation.
Tout à fait.
Voilà, et donc ça permet peut-être, quand on a aussi un cerveau qui a été... pas confronté, mais qui s'est frotté à ce monde-là, de la science, des expérimentations, d'être beaucoup plus terre-à-terre.
C'est le cas. C'est mon cas. Aujourd'hui, moi, j'approche l'influence... oui, c'est vrai. On va dire qu'il y a les paillettes, qu'il y a l'effet influenceur, le lifestyle, la beauté, etc., un petit peu la légèreté. Mais je ne l'aborde pas de ce point de vue-là. C'est-à-dire que, oui, aujourd'hui, il y a des influenceurs, il y a un monde de l'influence, mais je l'aborde de manière scientifique, si je peux me permettre. Parce qu'on...
Comment c'est possible, justement?
Ben, parce que c'est une nouvelle profession. C'est un nouveau métier qui commence à se développer, à grandir, grâce justement à l'émergence des réseaux sociaux. Et donc, ce métier-là, il est amené à se professionnaliser, à devenir un vrai métier pour lequel on peut se former, on peut apprendre et dans lequel on peut évoluer. Donc, oui, je prends un téléphone, je suis influenceuse parce que je fais des photos ou influenceur ou des vidéos, je parle, etc. Mais il y a tout un contenu derrière, il y a un contenu, on va dire, pertinent qu'il faut transmettre. Il faut aussi comprendre...
Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, justement. Est-ce que votre événement ne risque pas d'être critiqué? Parce qu'on se dit aujourd'hui, est-ce que nos influenceuses... Et ça, c'est un...
Et influenceurs,
voilà, ce discours-là de la critique autour des influenceurs, influenceuses, pas que marocains, marocaines, mais voilà.
À l'échelle internationale,
exactement. Est-ce que, et ça je l'ai entendu, et c'est pour ça que je vous pose la question, est-ce qu'ils sont capables de gérer un sommet? Quand on appelle summit, un sommet, c'est en général, on appelle ça pour une rencontre politique, gouvernementale, etc.
Oui.
Mais est-ce que ce n'est pas brinder un événement avec un nom, parce que le nom aussi fait partie de la construction de la marque, pour des profils qui n'ont pas finalement les épaules pour cet événement, pour la renommée de cet événement?
Justement, c'est l'occasion pour eux d'apprendre. Et il faut savoir aussi...
Mais pourquoi ne pas l'appeler, par exemple, Global Influencers Workshop plutôt que Summit?
Le sommet, parce que dans le contenu du sommet, il y a des experts. Ces experts-là, ils ont besoin d'une plateforme où ils vont venir partager leur expérience et leur savoir avec les influenceurs. Il n'y a pas que des influenceurs qui interviennent pendant le sommet. Il y a des experts en digital, il y a des experts en réseaux sociaux, il y a des experts dans le marketing d'influence. Il y a des gens, des professionnels de l'éthique, de la déontologie, des sciences sociales pour expliquer ce phénomène. Il n'y a pas uniquement des influenceurs.
Oui.
Les influenceurs, ils sont là pour apprendre et certains d'entre eux participent dans les panels et dans les workshops pour apporter leur expérience par rapport à le sujet qu'on traite.
D'accord.
Comment ils vivent ce sujet qui est traité. Par exemple, aujourd'hui, pas mal d'entreprises font appel aux influenceurs pour communiquer sur leurs produits.
Absolument.
Comment se monte cette collaboration entre marques et influenceurs? Pourquoi déjà les marques sollicitent de plus en plus les influenceurs? Et comment ces influenceurs appréhendent la communication de ces produits-là par rapport à leurs réseaux sociaux, etc. Donc, on bâtit une relation. C'est comme quand une entreprise... poste ou insère une insertion publicitaire dans un support, pourquoi elle fait ce choix de support?
Bien sûr.
Par rapport au message qu'elle veut transmettre. Donc, il y a tout ça qui est étudié. Ce n'est pas un sommet, ce n'est pas un événement ou un sommet où c'est les influenceurs qui vont prendre la parole à 100%.
D'accord,
comme j'ai dit au départ, c'est pour professionnaliser et pour donner un métier. C'est un métier, il faut qu'on le veuille ou non, c'est devenu un métier aujourd'hui. Mmh. Et il y a un tamisage qui va se faire.
Oui.
C'est-à-dire que c'est les meilleurs qui vont rester.
C'est ça.
Et c'est ceux qui sont moins bons qui vont partir, qui vont, on va dire, excusez-moi du terme, capoter d'eux-mêmes.
C'est
ça. Ils ne pourront plus trouver leur place dans ce monde. Donc c'est à ceux qui vont se professionnaliser, qui vont créer de réelles entreprises, qui vont être des vrais créateurs de contenu, qui auront des vrais messages à transmettre, qui vont rester, qui vont perdurer.
Mmh. Est-ce que vous abordez aussi ce volet de la responsabilité sociale de l'influenceur?
Oui.
On parle
oui.
de la RSE, mais un influenceur, une influenceuse, au-delà de d'une marque ou d'une plateforme de diffusion, parce que c'est ce que ça devient, un médium en quelque sorte, c'est aussi eh bien, finalement une personne qui va véhiculer des choses à la société. Et qui va
bien
refléter
sûr.
Sa société. Parce que, par exemple, là, on va parler d'un influenceur marocain, libanais, américain, etc. Et donc, forcément, on rattache une nationalité, un drapeau à cette personne.
Bien sûr, bien sûr. Regardez, pendant le mondial en 2022, il y avait des influenceurs qui avaient participé à ce mondial et ils nous ont montré des belles images de la société marocaine. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque match, ils ramassaient les ordures. Ils expliquaient aux gens que on est des Marocains, qu'on ne laisse rien derrière nous. Je sais pas.
Oui.
C'est des messages qui sont très positifs.
Mm.
Donc il y a des entreprises aujourd'hui qui incitent leurs employés à avoir une fibre associative. Aujourd'hui, il y a des influenceurs qui créent des associations et qui invitent les entreprises à faire partie de leur association, que ce soit pour le nettoyage des plages, pour la construction des puits, par exemple, ou pour transmettre des messages aux jeunes. Il y a des influenceurs aujourd'hui qui expliquent aux jeunes comment trouver peut-être un métier, comment... Il y a vraiment des influenceurs qui sont influents.
Oui.
Ils ne veulent même plus s'appeler influenceurs, ils veulent s'appeler des créateurs de contenu. Et qui sont vraiment influents.
Mmh.
Regardez, je vais vous donner un exemple type. Lorsque le Maroc a décidé de créer le Forsa.
Mmh.
Forsa, c'est pour donner une chance aux jeunes de créer leur entreprise et de créer des emplois pour les jeunes qui sortent de l'université ou des écoles, etc. Ben, on a sollicité des créateurs de contenu pour expliquer aux jeunes qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir, si vous avez un projet qui tient la route, on peut vous accompagner financièrement et aussi sur le plan métier, à créer votre propre entreprise et à devenir un employeur et une entreprise autonome. Et ce message-là a été transmis à travers les créateurs de contenu.
Mmh, mmh.
On a sollicité, bien évidemment, les médias pour parler, parce que c'est stratégique, c'est macroéconomique pour le pays. Il faut que les médias transmettent l'information. Mais pour toucher une cible, une jeunesse, qui aujourd'hui, elle est sur ses smartphones, elle est sur ses téléphones, elle est sur les réseaux sociaux, comment peut-on arriver, toucher cette jeunesse? Ben, c'est à travers des créateurs de contenu qui l'inspirent et bien sûr et qui lui donnent les bonnes clés, les bons messages qu'elle souhaite entendre. Donc pourquoi ne pas profiter de cette manne, puisqu'on a un peuple jeune, on a un peuple qui est connecté et c'est le futur. C'est vraiment le futur.
C'est ça. Alors, c'est pas la première édition?
Non, c'est la quatrième.
C'est la quatrième. Justement. Qu'est-ce que ça coûte de monter un événement pareil? Pas financièrement, je ne parle pas de ça, mais c'est-à-dire que la première fois, c'était créer un événement en partant de rien, de zéro.
De zéro.
De zéro, voilà.
Exactement.
Alors,
dans le sens propre et figuré.
Et figuré, exactement. Comment on arrive à embarquer avec soi des sponsors? Comment on arrive à donner confiance en un événement qui finalement... Et d'ailleurs, c'est bien de que vous soyez là pour nous expliquer finalement quelle est la portée de ce que vous voulez faire, comment vous comptez accompagner cette nouvelle génération professionnelle, de façon professionnelle, un secteur qui est quand même mal vu et souvent critiqué.
Justement, il faut nettoyer cette image, il faut l'expliquer. Il est mal vu, il n'est pas mal vu par tout le monde, puisque aujourd'hui toutes les entreprises sollicitent les influenceurs. Oui. Il n'est pas mal vu par tout le monde.
C'est vrai.
Il est mal vu par une certaine catégorie de personnes. Si aujourd'hui les influenceurs marchent bien et qu'on les sollicite, c'est que quelque part, ça donne des résultats. C'est une image. Justement, il faut travailler sur cette image. Et justement, comme je vous expliquais, il y a un tamisage qui doit se faire parce que il y a des moutons noirs qui sont dans ce pool d'influenceurs qui font qu'ils noircissent l'image, on va dire, des influenceurs. Mais sinon, il y a des belles personnes qui ont des beaux messages à transmettre. Donc l'idée, quand j'ai commencé cet événement au départ, c'était en 2016. La première édition a eu lieu en 2016 et c'était très innovant parce qu'on n'avait jamais entendu parler de ce genre d'événement auparavant. Et même en faisant un benchmark à l'international, je n'ai pas trouvé d'événement équivalent. Donc on va dire que j'étais parmi vraiment les premiers, les pionniers à monter ce genre d'événement. Aujourd'hui, il y en a quelques-uns. Mais franchement, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais vraiment, j'ai benchmarké, j'ai trouvé un petit événement aux États-Unis et un autre à Dubaï sur les influenceurs dans le culinaire. C'est les seuls événements sur lesquels j'ai un petit peu benchmarké le mien. Mais aujourd'hui, bien sûr, il y en a dans chaque pays, il y en a. Ça commence à grandir et à prendre vraiment de la place dans le monde de la communication digitale. Et donc, cette innovation a attiré la curiosité, justement, des annonceurs. Les influenceurs étaient... On les appelait blogueurs, déjà, en 2016, ça fait à peine 7 ans.
Oui.
Ça a énormément évolué. Et les entreprises, les sponsors avaient cette curiosité de voir ces personnes-là, comment elles travaillent, qui sont-elles, etc. Et mon idée au départ, c'était de mettre ensemble des influenceurs, des blogueuses à l'époque internationale et des marocaines pour justement que les unes apprennent des autres et pour s'inspirer les unes des autres pour comprendre comment elles évoluent. Parce que moi, j'avais commencé à travailler avec quelques-unes à l'international et j'avais découvert que les Marocaines ne travaillaient pas de la même façon. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas montrer aux Marocaines comment il faut travailler et en faire un événement annuel, c'est-à-dire comme si chaque année on vient avec les nouveautés.
On vient avec les... Alors ça ne répond pas à la première question. Comment vous avez fait en commençant de zéro?
Ben, c'était ça.
Oui.
C'était que j'ai lancé l'événement une idée. Voilà.
Il faut croire en son idée.
Voilà. Et j'y ai cru. Je l'ai proposé à mes partenaires, aux entreprises, aux sponsors. Et ça a bien accroché. Et donc, c'est de là que l'idée a pris forme. Elle a été réalisée, concrétisée. Mais au départ, c'était vraiment dans le fashion, parce que c'est là où il y avait le plus d'influenceuses.
Oui.
En 2016, il n'y avait pas ce qu'on a aujourd'hui comme créateur de contenu. Il n'y avait pratiquement que des influenceuses. Il y avait quelques influenceurs dans le monde du numérique, mais il n'y avait pas de... Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les actrices, les acteurs, les sportifs, les animateurs, les influenceuses, les personnes lambda. Tout le monde est devenu créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Mais à l'époque, ça se comptait sur les doigts de la main. Il n'y en avait pas beaucoup. Par contre, à l'international, ça c'était beaucoup plus développé. Donc, il y a eu cette espèce de confiance entre l'événement de mon agence et les annonceurs. C'est comme ça qu'on a réussi à monter l'événement et en faire un rendez-vous annuel. Donc ça a été pendant 3 années, Après, il y a le Covid qui est arrivé, donc c'était plus possible d'organiser l'événement. Et là, on revient 3 ans après le Covid. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à
la question. Oui, complètement. Donc, moi, ce que je retiens avant tout de ça, c'est se faire confiance, en fait. C'est garder un œil sur ce qui se passe, garder un œil sur les opportunités, se faire confiance et avancer.
Et avancer. Et ce que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas facile tous les jours. Chaque événement est monté dans la douleur. Ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. C'est-à-dire que quand aujourd'hui, on organise ce genre d'événement, on ne gagne pas forcément d'argent, mais on contribue quelque part où on apporte notre pierre à l'édifice dans l'évolution de notre pays. Parce que moi, aujourd'hui, comment je vois mon événement ou comment je vois le GIS, le Global Influencer Summit, je le vois comme un élément qui rentre dans le dispositif de communication du Maroc à l'échelle nationale et internationale. Donc c'est ça qui est...
C'est cette valeur, en fait, peut-être qui permet de tenir, en fait. C'est quand on a d'abord, pourquoi l'objectif, la valeur, exactement, la mission, etc. Et c'est ce qui fait, finalement, malgré contre vents et marées, malgré la douleur...
Vraiment, tsunami.
oui, c'est ça. C'est de continuer malgré tout.
Exactement, exactement. Et franchement, c'est très... jouissif, c'est-à-dire que quand on voit que on a des personnes qui sont là pendant un moment, qui communiquent sur le Maroc, vous voyez le Maroc sur les réseaux sociaux, les gens vous appellent, on vous dit, on a vu, on a parlé par exemple la dernière édition sur Essaouira, on a vu Essaouira partout, on parle de Essaouira, et quand on voit que après, qu'est-ce qui se passe dans cette ville, toute l'évolution qu'il y a dans cette ville par exemple, c'est ça qui est magnifique, c'est-à-dire que comme si on mettait les radars ou on mettait les feux sur un endroit.
Sur un endroit,
et puis ça évolue.
Cette fois-ci, c'est Agadir.
Par exemple, hier, ce week-end qu'on a ouvert le Technoparc, par exemple, à Essaouira, ça me fait plaisir. Parce que j'avais abordé cette question de pourquoi ne pas en faire un hub digital ou faire des jeunes qui sont là, qui sont sans emploi, pourquoi ne pas leur créer une plateforme pour commencer à communiquer sur leur ville, etc. C'est une idée qui a été lancée comme ça. Et c'est pas mal, ça fait plaisir. Et aujourd'hui sur Agadir, Agadir c'est la perle du Sud, c'est une ville qui a énormément souffert du Covid. Donc aujourd'hui... on a une très belle ville avec une magnifique plage, avec des très beaux sites, avec beaucoup d'atouts, que ce soit touristique, économique ou culturel. Et donc, pourquoi ne pas accompagner la ville dans sa communication? Elle va recevoir des matchs de la CAN 2025, elle va recevoir également des matchs du Mondial 2030. Donc, elle est en plein chantier, en pleine évolution. Donc, c'est le moment vraiment opportun de communiquer sur la région d'Agadir. Donc voilà, l'événement, il est à double face. C'est-à-dire qu'on a une partie scientifique avec le contenu, avec la professionnalisation du métier, de l'influence, etc. Et la deuxième phase, c'est la promotion de la région ou de la ville où il est basé, où il se déroule.
Alors, pour conclure, c'est quand exactement?
Alors, il va avoir lieu en fin de semaine, cette semaine, le 8 et le 9 décembre, Inch'Allah, à Agadir.
Eh bien, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui. Oui. Nawal Houti, merci beaucoup d'avoir accepté de jouer le jeu de ce rendez-vous féminin par excellence. Et pas que, d'ailleurs.
Merci infiniment, Yasmine, et merci à vos auditeurs et à très bientôt. Et rendez-vous à Agadir, Inch'Allah.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médias et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Médias Podcast et les plateformes de podcast habituelles.